Europe Midi, Fabienne Lemoelle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Nous avons vacciné depuis le début à peu près 3000 personnes en première injection. Sur un bassin de vie de 280 000 habitants. Voilà, dites-moi si c'est suffisant ou pas, moi je trouve que ça ne l'est pas.
Coup d'accélérateur de la vaccination ce week-end dans les départements les plus touchés, ou plutôt séance de rattrapage pour le maire de Béthune dans le Pas-de-Calais qu'on vient d'entendre. Jean Castex dit lui qu'il faut mettre le paquet, car on a un à deux mois très sensibles devant nous. Gros plan dans ce journal sur la visite historique du pape en Irak, rencontre majeure ce matin avec le grand ayatollah Ali Sistani dans la ville Sainte-Chie de Najaf et pèlerinage sur les terres d'Abraham. Symbole de la volonté de François de renforcer le dialogue entre les religions, nous serons en Irak avec Mgr Golnisch de l'œuvre d'Orient et avec moi en studio l'ancien correspondant du journal La Croix au Vatican, Frédéric Mounier, auteur du pape qui voulait changer l'église aux presses du Châtelet. Et dans l'actualité encore, nouvelle soirée de violence en banlieue lyonnaise hier, 6 personnes arrêtées. Une médaille d'argent pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme, Alice Finot sur 3000 mètres. La météo avec des températures en chute de 10 degrés par endroit, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Témoignage émouvant, vous l'entendrez, de Madeleine, 94 ans, résidente d'un EHPAD vacciné qui veut retrouver sa liberté et revoir ses arrière-petits-enfants.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nouveau coup d'accélérateur donc pour la vaccination ce week-end, ou séance de rattrapage pour ceux qui attendaient une injection depuis plusieurs semaines. En tout cas, Jean Castex le dit ce matin en déplacement dans la Creuse. Il faut mettre le paquet sur la vaccination et nous avons encore devant nous un à deux mois et demi sensibles. Traduction en tout cas sur le terrain. Voilà 135 000 doses à disposition, en priorité pour les 23 départements où les contaminations sont les plus fortes, notamment dans le Pas-de-Calais, on y reviendra, département où le confinement pour le week-end est en vigueur depuis ce matin 6h. En attendant, Maximilien Carlier, vous êtes à Béthune pour Europe 1. Là, l'objectif, c'est de vacciner 1000 personnes en un week-end. Et on peut dire qu'on s'est donné les moyens d'accueillir du monde.
Oui, effectivement, Fabienne, une file d'attente ce matin dès l'ouverture des habitants de Béthune ou alentour, plus de 75 ans ou moins, mais avec des pathologies, étudiantes infirmières également, soignants aussi.
C'est pas pour obéir à Olivier Véran, c'est surtout pour dire que si on veut retrouver notre liberté, je pense qu'il faut se faire vacciner.
En étant professionnel médico-social, on doit le faire et on y va.
Des prises de rendez-vous assez rapides, au dernier moment, hier après-midi, hier soir.
J'ai regardé Doctolib et il y avait énormément de place et voilà, on a pris la place tout de suite.
500 personnes vont se faire piquer aujourd'hui. Une accélération de la vaccination? Non, pas du tout, pour le maire de Béthune, Olivier Gacquer.
C'est un rattrapage et pas un cadeau, hein. C'est pas une bonification en tant que telle. C'est jamais suffisant, bien évidemment. Nous avons vacciné depuis le début à peu près 3000 personnes en première injection sur un bassin de vie de 280 000 habitants. Voilà, dites-moi si c'est suffisant ou pas, moi je trouve que ça ne l'est pas.
Et cet élu souhaite que ce vaccinodrome éphémère, ouvert le temps d'un week-end, soit durable, qu'il puisse fonctionner tout le temps afin de mettre à l'abri les plus fragiles.
Maximilien Carlier à Béthune dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. Le Pas-de-Calais, je vous le disais, département confiné depuis 6h ce matin et pour tout le week-end. Un confinement, on va l'entendre, plutôt subi par les habitants.
On ne vit plus, nous les anciens, on ne vit plus, les jeunes ne vivent plus. Et même mes petits-enfants disent « on en a marre, mamie ». Ça nous donne envie de pleurer.
Je pense que ça va vite passer. Après, si c'est effectivement 4 semaines pour sortir de l'impasse et pouvoir revivre normalement, c'est pas non plus insurmontable, hein, mais ça commence un petit peu à peser sur le moral.
Il n'y a qu'un département qui est confiné le week-end pour le moment. Et bien sûr, c'est le Pas-de-Calais. Donc ça me fait un petit peu mal au cœur.
En Seine-Saint-Denis, ils ne sont pas confinés. Pourquoi ? Je veux lui dire merci à notre préfet. On en a ras-le-bol.
Voilà, on entend le poids de cette épidémie traduit par ce ras-le-bol, cette épidémie qui n'en finit pas, qui se traduit parfois par un mal-être psychologique que le gouvernement doit prendre en compte. C'est en tout cas ce que disait ce matin sur Europe 1 Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
Il faut faire beaucoup plus en termes d'accompagnement social et notamment d'accompagnement du mal-être psychologique qui est en train de se développer dans notre pays. Les aides financières sont absolument indispensables. On pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fait pour ceux qui sont plus fragiles. Au contraire, on est en train de prévoir de leur reprendre d'une main ce qu'on leur avait donné de l'autre à travers la réforme d'assurance chômage. Mais il faut aussi accompagner les personnes qui ne voient pas le bout du tunnel. Vous savez, ce qui revient le plus, moi j'étais cette semaine en déplacement auprès de militants et de salariés des services et du commerce, de la restauration, c'est l'incertitude. Et on peut comprendre qu'il y a de l'incertitude, mais du coup, il faut qu'on puisse se poser la question de comment on accompagne cette incertitude pour que ça ne monte pas en mal-être psychologique et voire même en ressentiment.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, invité de Pierre de Villeneuve ce matin sur Europe 1. Et justement ce matin dans la Creuse, Jean Castex qui a rencontré hier avec Bruno Le Maire les responsables du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, a dit qu'il ne débranchera pas tout de suite les aides du secteur de la restauration lorsque ce secteur pourra rouvrir.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Et direction l'Irak avec le pape qui poursuit sa visite et qui a plaidé une nouvelle fois pour la liberté de conscience et de religion dans ce pays meurtri. Et rencontre historique ce matin dans la ville sainte chiite de Najaf, le pape François reçu par le grand ayatollah Ali Sistani, Jean-Sébastien Soldaini. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Une rencontre à huis clos, immortalisée par un simple cliché et un communiqué.
C'est une photo on ne peut plus sobre, Fabienne. Deux hommes assis dans un coin, chacun sur une banquette, des murs blancs et une boîte de mouchoirs posée sur la table qui les sépare. Chacun pose les mains sur les genoux. Seuls trois cardinaux présents apportent de la couleur sur une autre photo. Un peu moins d'une heure, sans beaucoup de détails, si ce n'est un communiqué du bureau de l'autorité chiite en forme d'appel à l'unité. Ali Sistani souhaite que les citoyens chrétiens vivent comme tous les Irakiens. De son côté, le pape a remercié l'ayatollah pour être intervenu et avoir appelé sa population à se lever contre Daesh.
Alors, autre temps fort de la matinée, Jean-Sébastien, le pape qui s'est rendu à Our, terre symbole du dialogue qu'il veut nouer avec les autres religions.
Et c'était une scène assez étonnante, un tapis rouge posé en plein désert avec en toile de fond un temple de la Mésopotamie ancienne, le site où serait né Abraham, le patriarche des trois grandes religions monothéistes, mais aucun symbole religieux apparent, moment de prière notamment avec cet extrait chanté de la Genèse, moment choisi par le pape pour appeler à la paix dans la région. Mes chers amis, il faut cheminer du conflit à l'unité dans tout le Moyen-Orient et en particulier en Syrie martyrisée. La paix n'exige ni vainqueur ni vaincu, dit le pape. L'occasion aussi pour François de plaider une nouvelle fois pour la liberté de conscience et la liberté religieuse, thème récurrent de ce voyage dans ce pays aux identités très diverses et où il appelle à protéger la foi des chrétiens.
Jean-Sébastien Soldaini en Irak pour Europe 1 avec moi en studio. Frédéric Mounier, bonjour.
Bonjour.
Ancien correspondant du journal La Croix au Vatican, auteur du pape qui voulait changer l'église aux presses du Châtelet. Juste qu'on prenne la mesure de cette rencontre avec le grand ayatollah Ali Sistani, figure majeure du monde chiite. En quoi elle est historique qu'on comprenne que ce mot n'est pas galvaudé?
Moi, c'est simple, je crois que ces deux piliers de la foi voudraient construire un pont. Un pont pour la paix, un pont pour la reconstruction et pour la justice. Sistani est un homme extrêmement renommé en Irak, qui reçoit quasiment personne, pas de chef d'État. Donc c'est la toute première fois qu'il a reçu quelqu'un de ce niveau-là, et avec un appel très très clair à l'égalité des religions, à une certaine forme de laïcité. C'est vraiment très très émouvant et très très important.
Et cette image dans le désert, à Our, avec ces trois tentes, vous me disiez avant de rentrer en studio.
Alors c'est absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'il y avait trois tentes blanches, il n'y avait pas de croissant, il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas de signe religieux, il n'y avait pas de prééminence, et le pape s'est retrouvé avec le pape des Mazdéens, avec un responsable des Yézidis, enfin toute ce florilège de religions du Moyen-Orient qui ont été vraiment martyrisées. Il faut se souvenir que les femmes Yézidis étaient vendues $20 sur le marché aux esclaves, et bien là, ils se sont retrouvés ensemble pour prier pour la paix ensemble. Et on a lu un texte de la Genèse, de la Bible et aussi du Coran.
Merci beaucoup Frédéric Bounier. On vous retrouvera dans la deuxième partie de ce journal. On prend bien la mesure déjà avec ce que vous nous dites du caractère historique et exceptionnel de ce voyage qui est placé, et on y reviendra, sous haute sécurité. Nous serons aussi avec Monseigneur Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, qui suit cette visite auprès du pape François.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Dans un instant, nouvelle soirée de violence dans la banlieue lyonnaise hier soir avec 6 personnes interpellées à Rieux-la-Pape.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Le calme est donc revenu ce matin dans la banlieue lyonnaise, mais la soirée a été marquée par de nouvelles violences, cette fois sur la commune de Rieux-la-Pape, avec des affrontements entre un groupe de jeunes et les forces de l'ordre, violences qui interviennent après celles qui ont touché la veille le quartier sensible de la Duchère à Lyon, après la chute en scooter d'un habitant. Pour l'instant, pas de lien entre les deux, mais les conséquences sont les mêmes. Jets de cailloux, feux de poubelle, voitures incendiées. Et au final, à Rieux-la-Pape, Justin Morin, 6 personnes interpellées dans la soirée.
Oui, et parmi eux, au moins 4 mineurs toujours en garde à vue ce midi. D'autres interpellations pourraient suivre, puisqu'en tout, ils étaient une trentaine hier soir. Un groupe compact, très mobile, selon le maire de Rieux-la-Pape. Les troubles ont commencé vers 19h15 dans le quartier sensible des Alagnés. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des poubelles incendiées, des départs de feu dans la nuit. On voit aussi des policiers pris à partie, des bus également caillassés. Le bilan officiel ce midi fait état d'une douzaine de voitures incendiées et de 2 bus dégradés. Alexandre Vincent Day, le maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, appelle à une réponse ferme contre les responsables de ces violences.
C'était un commando punitif qui a essayé de tout détruire sur son passage et de montrer un petit peu les muscles pour terroriser les habitants du quartier. L'explication, c'est que vous avez des voyous qui n'aiment pas que des élus viennent les déranger dans leur petit trafic. Je le dis, il faut que la justice frappe à la hauteur de la colère que je peux ressentir. Et cette colère, je sais que c'est la même parmi les habitants de ma commune.
Le quartier des Alagnés connaît régulièrement des épisodes de violences urbaines. Le week-end dernier, des feux volontaires avaient été allumés, mais rien comparé à ce qui s'est passé hier soir.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. L'actualité sportive avec une nouvelle qui rend le sourire à l'athlétisme français après la blessure de Renaud Lavillény qui le prive des championnats d'Europe en salle. Alice Finot décroche une première médaille pour la France dans cette compétition. Deuxième place du 3000 mètres avec de l'argent, une grande joie. Et elle raconte qu'elle avait le flow, entendez par là le rythme pour aller chercher une grande performance.
Le flow, on ne le vit pas souvent dans une carrière, mais aujourd'hui c'était le cas, quoi. Ça s'est passé tout seul, les planètes se sont alignées, tout était en phase. Et il y a eu le résultat, donc quand le résultat est à la hauteur de l'investissement et de l'effort fourni, en fait, on est en phase avec tout. Et puis c'était l'euphorie, ouais. J'ai appris à faire ma place en championnat, donc en un jour.
Voilà, Alice Finot, sa joie, son sourire au micro de Corinne Boulou. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi avec le froid de retour et les températures qui ont chuté de 10 degrés dans certaines régions. La pluie qui s'invite, plus on descend vers le sud aussi, Valérie Darmon.
Tout à fait, le nord du pays est toujours protégé par le puissant anticyclone britannique, donc le soleil domine, mais la présence d'un vent soutenu de nord-est accentue nettement la sensation de froid, surtout d'ailleurs cette matinée et en ce début d'après-midi. Et le ressenti qui sera tout de même un petit peu moins désagréable grâce au soleil qui va briller jusqu'à ce soir. Plus au sud, c'est très nuageux, voire pluvieux. C'est en Provence que le temps devrait être le moins agréable, sous beaucoup de nuages et des précipitations plus ou moins faibles et plus ou moins éparses. Le tout sous des températures en baisse, mais restant assez proche des normales pour la moitié sud et en dessous pour la moitié nord, avec des maximales entre 6 à Dunkerque et 16 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Je vous le disais, à suivre, page spéciale sur la visite historique du pape en Irak. Toujours avec moi en studio, l'ancien correspondant du journal La Croix au Vatican, Frédéric Mounier, auteur du pape qui voulait changer l'église aux presses du Châtelet. Et nous rejoindrons en Irak Monseigneur Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, qui suit cette visite et qui a participé à son organisation.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et c'est donc une visite, on le disait, historique que le pape a entamée hier en Irak, une visite qu'il avait promis dès 2015. Avec moi, toujours en studio, l'ancien correspondant de journal La Croix au Vatican, Frédéric Mounier, auteur du pape qui voulait changer l'église aux presses du Châtelet. Et nous allons rejoindre tout de suite en Irak un de ceux qui a aidé à l'organisation de ce voyage. À haut risque, il faut redire que les conditions de sécurité ne sont pas évidentes. On a vu encore ces tirs de roquettes il y a quelques jours. Et le risque du Covid avec nous, donc, Monseigneur Golnisch, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1, directeur de l'œuvre d'Orient. Vous accompagnez le pape dans cette visite depuis hier. Qu'est-ce qui vous marque depuis son arrivée? Pourquoi c'est aussi important et comment ça se traduit justement sur le terrain?
Alors, c'est important à plusieurs niveaux. C'est important pour l'Irak, qui souffre atrocement depuis 40 ans, qui est bafoué, qui est méprisé, où tout le monde s'imagine pouvoir intervenir comme ils veulent, et donc de redonner aux Irakiens du respect, de la confiance, de l'espérance. Ensuite, c'est important au niveau interreligieux, puisque le pape, qui a déjà rencontré les responsables de l'islam sunnite, c'est l'une des deux grandes branches de l'islam, a pu y rencontrer l'un des leaders de l'islam chiite, celui qu'on appelle le grand ayatollah Sistani, qui est soucieux de plus d'autonomie du politique par rapport aux religieux. L'ayatollah Sistani, lui, il veut pas que les religieux soient dans la politique. Ensuite, c'est important pour la région. parce que le pape est venu dans beaucoup de pays. Il est déjà venu en Israël, en Palestine, il est venu en Égypte, et donc il est allé en Turquie, il est allé en Arménie, et donc il veut donner des messages de paix. Alors pour nous, la paix en français, en France, on y est habitué depuis 70 ans. Alors ça nous paraît un discours un peu convenu. Quand vous êtes dans un pays qui a été déchiré depuis 40 ans par des violences et par des guerres, par les exactions de Daesh notamment, parler de paix, c'est un message très fort qui touche le cœur des gens. Non. Tout ça pour aider les Irakiens à rester unis et pour aider les Irakiens à croire en leur propre pays, leur redonner confiance et donc leur redonner la possibilité d'un avenir à construire pour répondre aux besoins des nouvelles générations qui sont là et qui réclament un pays
alors,
où ils pourront vivre.
Justement, Mgr Le Godniche, vous êtes dans ce pays que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui vous marque depuis que le pape a foulé cette terre et qu'il tenait tellement à fouler, justement, dans ce que vous voyez, sachant qu'en plus, on est avec cette sécurité renforcée, ce Covid qui empêche les bains de foule?
Alors, j'avoue que c'est l'une des particularités. Je suis un peu habitué aux voyages pontificaux. Jusqu'au dernier moment, j'ai craint qu'il ne soit annulé. J'ai vraiment pleinement cru quand j'ai vu le pape atterrir à Bagdad. Un pays confiné. Je pense que les Français comprennent bien ce que ça veut dire. Bagdad est confiné. Donc, c'est quand même très particulier. Il n'y a pas les foules habituelles à acclamer le pape. Cependant, il a été très respecté et attendu, évidemment, par les catholiques. Ça va de soit les chrétiens, mais aussi par les musulmans. Parce que, vous voyez, le pape, c'est une voix mondiale qui est en train de dire l'Irak a le droit d'être respecté, l'Irak a le droit de vivre, l'Irak a le droit d'envisager son avenir, l'Irak a le droit d'avancer sur le chemin de l'unité. Et bien, ces paroles-là, les Irakiens avaient envie qu'une voix mondiale vienne leur dire. Vous savez, les peuples, ils ont besoin de se sentir quand même respectés. Un peuple humilié, c'est un peuple qui risque de céder à la désespérance et à la violence. Donc ce sont des paroles de respect du pape pour tous les Irakiens. Le pape ne vient pas soutenir les chrétiens à côté des musulmans ou en dehors des musulmans, encore moins contre les musulmans. C'est quand même pas tout à fait le style du pape François. Il vient soutenir les Irakiens et il dit dans cette évolution que doit vivre l'Irak vers la paix, vers un avenir meilleur, les chrétiens pourront être des acteurs, ils pourront aussi être des bénéficiaires.
Mgr Godniche, vous restez avec nous, avec moi, je le disais en studio, Frédéric Mounier qui connaît bien la machine vaticane, puisque vous êtes un ancien correspondant de la Croix au Vatican, vous connaissez bien aussi la personnalité du pape François. On en parlait tout à l'heure, Frédéric Mounier. Il n'y a que lui qui pouvait justement réussir ce voyage. D'ailleurs, il l'a voulu, hein, vous m'avez dit. Au Vatican, on n'était pas vraiment très favorable hein, quand même à ce qu'il aille en Irak. Hein.
Non, et puis vous l'avez remarqué, Fabienne, en ce moment, aucun leader politique mondial ne voyage, aucun leader religieux mondial ne voyage. Il n'y a que le pape François qui est à même de prendre ce risque-là. Et comme vous l'avez dit, il prend ce risque contre son entourage. Lorsqu'on a appris que le nonce apostolique à Bagdad, Mgr Lescovar, était atteint du Covid, il y a de nombreuses voix se sont élevées au Vatican pour dire on arrête tout, on reporte, c'est pas sérieux. Et le pape a dit non, je veux y aller, car le pape est un homme qui est un grand démocrate, qui consulte beaucoup, mais c'est aussi un homme qui décide fermement et avec beaucoup de ténacité.
Pourquoi c'est important pour lui, justement, d'aller dans ce pays précisément? Vous m'avez dit, il y a ce dialogue interreligieux, on l'a vu avec ce pèlerinage spirituel à Our, berceau des trois religions monothéistes, terre d'Abraham. Pourquoi juste l'Irak pouvait incarner ce dialogue qui, pour lui, vous le dites, est capital pour l'humanité, pour la survie même de l'humanité?
Parce que c'est le pape des fractures du monde. Lorsque le pape s'est rendu en 2015 à Bangui, en République centrafricaine, il a expliqué si le pilote ne veut pas atterrir, je sauterai en parachute. Il veut être là où ça fait mal, là où les religions se frottent, là où les hommes souffrent, là où il y a de la violence, et là, il veut apporter de quoi panser les blessures, dans les deux sens, penser en pansement ou penser parce qu'il faut penser et réfléchir. Et donc, le pape essaye de faire ça. Il a utilisé deux images hier pendant son arrivée à Bagdad pour faire comprendre ça. Sur la place des chrétiens d'Orient, il a utilisé l'image du tapis oriental, c'est-à-dire que les chrétiens ont toute leur place avec les différentes sortes de musulmans au Moyen-Orient, comme la trame d'un tapis où les fils de différentes couleurs forment un paysage d'ensemble. Et cette image-là parle très très clairement à ses interlocuteurs. Et puis aussi, il a parlé du vaccin. Alors évidemment, on le sait, il prône la distribution équitable des vaccins, mais face à la désespérance, face au virus de la violence, eh bien, il souhaite que l'espérance puisse devenir un vaccin. Je trouve que c'est une très belle image.
Monseigneur Goldnisch, sur ce dialogue effectivement entre les religions, on sait combien il est important, précieux pour le pape François. Ce qu'il dit en Irak, forcément, j'imagine, c'est pour que ça ait un écho aussi ici, chez nous, en Occident.
Écoutez, le pape n'a pas nécessairement toujours les problèmes de l'Europe occidentale en tête, mais à nous, occidentaux, de savoir nous décentrer un petit peu, et ne pas toujours penser que le pape vient répondre à nos difficultés ou à nos polémiques, et de nous mettre à l'écoute de ce grand message que l'Ayatollah Sistani et le pape François ont délivré ce matin. Parfois, vous voyez, j'entends dire qu'au Moyen-Orient, les religions sont source de guerre et de violence. Eh bien, c'est faux. Ce qui est source de violence, c'est la manipulation des religions par les politiques. Encore faut-il que les religions ne se laissent pas manipuler par les politiques. Eh bien, je crois que le message du pape François et du grand Ayatollah Sistani, c'est de vouloir que les religions ne soient pas manipulées, et encore moins source de violence, qu'elles doivent sur ce de paix. Alors, vous savez, en Irak comme ailleurs, il y a des forces de ténèbres et forces de lumière. Les forces de ténèbres, des forces de violence, les forces de déshumanisation. Vous pensez quand même qu'à Mossoul, le Daesh a rouvert le marché des esclaves pour vendre aux plus offrants des femmes yézidis, une religion très ancienne de l'ancienne Perse, de vendre les femmes yézidis comme esclaves sexuels aux plus offrants.
Mossoul, où le pape sera demain, effectivement, oui. Et cette ville emblématique, effectivement, puisque c'est là que le califat de l'État islamique avait été proclamé, on s'en souvient, dans cette mosquée par al-Baghdadi en 2015. Donc on imagine aussi la force symbolique de cette étape de demain, Monseigneur Goldnisch.
C'est une audace incroyable de la part du pape, mais c'est vraiment, comme le disait Frédéric Mounier, que je suis heureux de saluer, voilà, c'est le pape qui n'a pas envie de rester dans les zones de confort, que nous n'en sommes pas toujours conscients, nous représentons en Europe occidentale, il veut aller là où se joue le salut de l'humanité, des personnes humaines. Il veut aller là où les gens sont en souffrance, là où il y a des gens qui sont bafoués. C'est là qu'il considère que son ministère prend tout son sens.
Merci beaucoup, Monseigneur Goldnisch. Frédéric Mounier, vous vouliez ajouter ?
Oui, il faut souligner que cette démarche de paix accompagnée par Sistani et le pape suscite des oppositions dans les deux camps. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des oppositions, on le sait, très très fortes dans la diversité des islams, mais il y a aussi des oppositions du côté catholique et du côté des chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent que le pape François est naïf, est innocent de vouloir faire confiance aux musulmans qui sont supposés être en face. Et donc tout ça suppose un très très grand courage, et pour le cheikh Sistani, et pour le pape François.
Une dernière question, Monseigneur Goldnisch, puisque vous êtes en Irak et que vous connaissez bien ce pays, il va à Mossoul demain, pour l'instant le voyage se passe bien, est-ce que les conditions de sécurité, justement, inquiètent quand même l'entourage ?
Ah oui, bien sûr, c'est quand même un voyage à risque, hein, évidemment. Vous savez, il suffit que deux ou trois aient envie de faire un acte de violence, et voilà. Donc, c'est un voyage très sécurisé, et malgré tout, les épreuves des Irakiens fait que c'est un voyage assez intériorisé. Avec Frédéric Mounier, nous connaissons bien ce que sont les voyages pontificaux. Vous voyez, c'est pas l'exubérance habituelle, gentille, mais parfois un peu superficielle. Là, c'est quelque chose de très intériorisé. Et le pape lui-même, et on voit combien chaque étape lui tient à cœur. C'est très important pour lui d'être à Our, mais il était aussi hier à la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, où il y a eu un attentat. Il vit cela très fortement, mais je crois que c'est vraiment une joie très profonde. Mais ce n'est pas exubérant, mais c'est très réel quand même, comme joie et comme communion avec les Irakiens.
Comme un retour aux sources, j'ai envie de dire, Frédéric Mounier.
C'est un retour à la maison. C'est un retour à la maison. J'attire votre attention sur la journée de demain qui va être très sensible, puisque dans la plaine de Ninive, à Mossoul et à Karakoch, qui sont des lieux de martyrs, le pape va inviter les chrétiens à rester et à revenir. Ce qu'on imagine, la difficulté considérable considérable de
cette
démarche.
Sachant qu'il reste 400 000 chrétiens en Irak, voilà. Ils étaient 1 200 000, je crois,
exactement,
il y a encore quelques années.
Exactement.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette page spéciale, je vous le disais, sur cette visite historique du pape en Irak. Merci à vous, Monseigneur Golnisch, depuis Bagdad. Merci en studio avec moi, je le disais, Frédéric Mounier.
Merci à vous.
Auteur, on le rappelle, du pape qui voulait changer l'Église, on a bien compris, le pape François aux presses du Châtelet. 12h58, dans un instant tout terrain, nous serons sur la vaccination, on en parlait, coup d'accélération, et dans les EHPAD, on se dit qu'on aimerait bien avoir un peu plus de liberté.